Vous êtes sur RTL.
Un nouveau journal avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Rebonjour.
Rebonjour Julien, bonjour à tous.
Emmanuel Macron promet plus de bleus sur le terrain.
Dans un entretien au Figaro, il confirme l'objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici l'année prochaine. En parallèle, l'indignation des syndicats de policiers après le procès en appel du drame de Viry-Châtillon. Une réouverture progressive des frontières de la France à partir du mois de mai. Et puis la Super League à la française. En Ligue 1, Lille, le PSG, Monaco et Lyon se livrent une bataille acharnée pour le podium.
Dans une dizaine de minutes, votre surf Cyprien Sini, bonjour.
Bonjour à tous.
Aux États-Unis.
Open bar sur la vaccination, c'est aujourd'hui.
RTL Matin.
Emmanuel Macron attendu tout à l'heure à Montpellier.
Un déplacement sur le thème de la sécurité. Le chef de l'État se rendra d'abord dans un commissariat avant d'aller dans le quartier de Lamosson. Un tour de vis régalien, Marie Mollet.
Oui, et pour cette nouvelle offensive, Emmanuel Macron vise en clair la sécurité en bas de chez soi. Plus de bleus sur le terrain, dit-il. 2000 policiers et gendarmes en plus cette année, affectés pour l'essentiel à la voie publique. La lutte contre le trafic de drogue, érigée en priorité. Le chef de l'État veut harceler les trafiquants et les dealers. Ils promettent un grand débat national sur la consommation de drogue, sans en détailler les contours. Emmanuel Macron qui n'oublie pas de donner des gages aux policiers. Modernisation de l'uniforme, création d'une nouvelle académie de police, une école de guerre pour améliorer la formation. Quant aux violences policières, formule qu'il avait employée en décembre avant de se rétracter, il balaie. Il n'y a pas de violence ou de racisme systémique de la police, dit-il au Figaro. À un an de la présidentielle, Emmanuel Macron tente donc d'occuper le terrain de la sécurité que lui disputent Marine Le Pen et la droite, et identifié comme l'un des talons d'Achille du président de la République.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Dans l'affaire du drame de Viry-Châtillon, la justice a rendu un verdict plus clément en appel et il fait toujours jaser.
En Essonne, une voiture de police avait été prise pour cible par un groupe de jeunes en 2016. Ils avaient jeté un cocktail Molotov à l'intérieur du véhicule, blessant gravement deux policiers. Ce week-end, 8 jeunes ont été acquittés, 5 autres ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de prison. Décision écœurante et choquante pour les syndicats de policiers, alors que les avocats des jeunes, eux, plaident l'erreur judiciaire. Alice Moreno.
Oui, c'est un immense soulagement du côté de la défense. Une majorité d'acquittement dans cette affaire qui est, selon certains des conseils des jeunes accusés, l'une des plus grosses erreurs judiciaires de ces 10 dernières années. Ils dénoncent une enquête tronquée, manipulée. Selon eux, il y a eu des faux en écriture publique, des procès-verbaux de garde à vue mensongers, des violences, même au cours des interrogatoires. Et des jeunes se seraient ainsi retrouvé accusé alors qu'il n'avait rien à voir avec l'attaque au cocktail Molotov contre les policiers. Leurs avocats réclament désormais la lumière sur le déroulé des investigations et plusieurs s'apprêtent à saisir l'inspection générale de la police nationale. Des soupçons qui hérissent les syndicats de police déjà écœurés par ce verdict. Ces acquittements en masse sont pour eux un désaveu. Plusieurs organisations appellent à des manifestations dès demain midi devant les tribunaux.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. La mère de la petite Mia bientôt extradée vers la France. Si elle ne s'y oppose pas, elle a été retrouvée hier matin avec sa fille dans un squat en Suisse à la suite d'un kidnapping rocambolesque. Elle n'avait plus le droit de voir sa fille seule depuis le début de l'année. Avait donc monté une opération commando avec plusieurs hommes rencontrés sur Internet issus de la mouvance complotiste. 5 personnes sont actuellement mises en examen pour enlèvement en bande organisée.
Alors on va marquer une petite pause et dans un instant dans ce journal, on va poursuivre notre tour du monde d'après, dans tous les journaux de cette matinale, nous allons nous rendre dans les différents pays qui sont en train de retrouver une certaine liberté pour essayer d'en tirer le son. Les leçons, on va partir aux États-Unis et plus précisément en Californie juste après ça.
RTL Matin,
Julien Cellier.
Allez, 6h35, vous écoutez RTL et c'est vrai que dans certains endroits du monde, la vie reprend après l'épidémie. On continue, comme on le fait depuis 4h30, notre tour du monde ce matin de ces pays chanceux, direction la Californie.
Si la France n'a pas prévu de rouvrir ses terrasses de café avant la mi-mai, aux États-Unis, la vaccination est beaucoup plus avancée. La Californie est l'État qui a le plus souffert de la pandémie. Le gouverneur a désormais autorisé la reprise de certains matchs de basket en public, ainsi que la réouverture des grands parcs d'attractions, Karine Hoten.
Oui, vous entendez derrière moi l'animation Jurassic Park rencontre avec un vélociraptor du parc Universal Studios qui a réouvert au grand public vendredi, au plus grand plaisir des fans qui avaient dû ronger leurs freins alors que leur parc préféré est resté fermé plus de 14 mois. Mais ça y est, la Californie a publié un calendrier des reprises. Ce sera autour du parc Disney dans 10 jours. Les attractions où le public est enfermé plus de 15 minutes reprendront un peu plus tard. D'autres fans, ceux de l'équipe de basket des Lakers, ont eux pu assister à un match en intérieur pour la première fois depuis le début de la pandémie, voir leurs joueurs en chair et en os. Cela dit, il y a un point commun entre toutes ces réouvertures, les mesures de protection sanitaire. On ne revient pas totalement à la normale car la Californie reste prudente. Les parcs d'attractions ne peuvent accueillir les visiteurs qu'à 25% de leur capacité, les stades à 10%, et il faut parfois montrer patte blanche à l'entrée avec un test PCR négatif ou une preuve de vaccination.
Karine Auten aux États-Unis pour RTL.
Et on surfera avec la vaccination pour tous les adultes, ça laisse rêveur aux États-Unis dans quelques minutes avec notre ami Cyprien Sini. Ici en France, les chiffres des réanimations, des contaminations restent toujours aussi désespérément élevés. Alors si vous avez envie d'espace pendant ce nouveau confinement, des terrains à 1 euro sont toujours à vendre dans le Finistère.
Ça fait depuis 2015 que la petite commune de Berrien tente d'attirer des nouveaux habitants avec ce prix qui défie toute concurrence. Une opération de communication au bilan mitigé 6 ans plus tard. Patrice Gabart.
Les travaux sont lancés sur la parcelle numéro 7, une maison écologique en bois et paille que Stéphane va construire lui-même. Il vit déjà sur place dans un mobil-home avec sa femme et leurs deux enfants.
On habitait à La Réunion. Quand on est revenu sur le Finistère, on cherchait à s'installer, à construire notre maison. Quand on a vu le projet que la mairie avait lancé, en fait, et ça nous a tenu à cœur aussi d'aider à sauver l'école. Un donnant-donnant, on va dire. On accédait à la propriété pour pas cher et puis en même temps, on aidait aussi l'école à éviter de fermer une classe.
La chance de cette famille, c'est qu'il restait encore des lots à vendre 5 ans après le lancement de l'opération du maître carré à 1 euro. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne compte que 3 maisons et 2 permis de construire sur 10 parcelles. Un verre plutôt à moitié vide pour Hubert Lelanne, le maire de Berrien.
Nous sommes un petit peu déçus, un peu restés sur notre faim du fait qu'il y a eu un engouement extraordinaire au départ. Et les terrains, on aurait pu en vendre 50 si on avait eu 50. Les gens, ce qui les intéressait peut-être le plus, c'était le prix. Ils n'avaient pas pris en compte l'environnement, le problème de l'emploi. Et ça, effectivement, il y en a beaucoup qui en sont revenus.
Heureusement, l'engouement du départ avec l'installation, même provisoire, de plusieurs familles dans le village a permis de sauver la 4e classe de l'école à la rentrée 2015. C'était l'objectif de cette opération, une 4e classe qui existe toujours aujourd'hui.
Un reportage signé Patrice Gabart pour RTL.
RTL, 6h39, on en vient à ce séisme qui secoue ce matin le monde du foot. 12 des plus grands et des plus riches clubs européens lancent leur propre compétition pour rendre ringarde la Ligue des Champions.
Le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou encore Manchester, ils veulent démarrer la saison en août prochain. Des clubs fondateurs censés se partager une subvention initiale de 3,5 milliards d'euros. Une annonce qui a fait sursauter l'UEFA. L'instance européenne promet d'exclure ces clubs de la Ligue des Champions. La FIFA a également dit son opposition. À noter parmi ces équipes, pas de club allemand ni de club français. Hier soir en Ligue 1, c'était le sprint final dans le haut du classement. Un point derrière le leader Lille, le PSG a battu Saint-Etienne 3-2, suivi de près par Monaco, un point derrière, vainqueur de Bordeaux 3-0, et puis juste derrière, c'est Lyon qui a battu Nantes 2-1, l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia.
On n'avait pas le plus facile des calendriers du week-end. Par contre, on savait que Lille avait fait match nul et qu'on pouvait leur reprendre 2 points avant de les recevoir. On savait aussi que Paris et Monaco avaient gagné. Donc on était dans l'obligation de prendre 3 points ici. Et tant mieux que ça redevienne dépendant de nous-mêmes, parce que pour l'instant, on a la plus mauvaise place. Ce championnat est passionnant, excitant. C'est l'un des grands championnats européens à regarder en ce moment. On va faire un peu de publicité pour notre Ligue 1.
Voilà, Rudy Garcia, 4 équipes dans un mouchoir de poche en tête de la Ligue 1, des propos recueillis par Philippe Audouin pour RTL.
Merci.